Chers amis, Hachem Alechem Tihyu, Leorech Yamim Tovim et Shanim Ne'emim. Nous poursuivons notre étude du Chumash. Nous entamons, Be'ezrat Hachem, l'étude du Sefer Shemot. Le livre des noms qui contient la délivrance. C'est le livre de la délivrance. Nous avons déjà indiqué que le livre de Bereshit est appelé Sefer HaYashar, le livre de la droiture. C'est le mot Yashar indique que ce n'est pas une qualité, la droiture n'est pas une qualité, une des étapes qui jalonne le parcours de celui qui grimpe, qui fait l'ascension vers les sommets de l'excellence. Elle n'est pas une étape, mais c'est la vertu indispensable qui accompagne celui qui aspire à franchir les obstacles et à continuer sa progression, à réussir sa progression jusqu'à atteindre les sommets. C'est ainsi que sont Sefer HaYashar, c'est ainsi que sont qualifiés les Avot HaKedoshim, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc c'est le sentier, la voie de rectiligne, de la rectitude et de la constance, de la persévérance et de la ténacité qui définit les Avot HaKedoshim dans leur résolution à atteindre un objectif suprême qui est le service d'Hachem. Ça c'est le Sefer Bereshit, c'est ainsi que se définit le premier livre de la Torah. Le second est celui de la délivrance. Alors il commence, il est appelé Shemot. Shemot, ce sont les noms. En français, on traduit pas les noms, on traduit l'Exode. L'Exode, qui semble être un terme qui est inapproprié, qui n'est pas très juste. Parce que l'Exode indique ou signifie que l'on est exilé du lieu de sa patrie. Alors qu'ici, le livre de Shemot indique la délivrance, la sortie, la libération de l'âme Israël du lieu de leur emprisonnement. Donc, il était préférable de le qualifier de livre de la liberté. À Kopanim, le Sefer est appelé Shemot. Shemot, ce sont les noms. C'est ainsi que débute le livre, le premier passouk. Elle est Shemot, Bene Israël, Abaim, Mitzrayim. Et voici les noms des enfants d'Israël, des fils d'Israël qui viennent en Égypte. Avec Yaakov, et Yaakov Ishubetobaou. Ils sont venus avec Yaakov, chaque homme avec sa maison, ils sont venus. Et là, on cite les enfants Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zivulun ou Binyamin, Dan ve Naphtali, Gad ve Asher. Et Yosef était déjà en Égypte. Et donc, ils sont, tous ces gens-là, cette famille de Yaakov, sont au nombre de 70 en tout. Donc, Quel rapport y a-t-il entre les noms des enfants d'Israël et la délivrance? Alors le Midrash dit qu'en fait la délivrance est contenue dans les noms. C'est ainsi que le Midrash dans Bereshit Rabba au début indique cela, que chacun des noms signifie ou désigne un aspect de ce qu'il va permettre à Am Israël d'être libéré quand le temps viendra. Donc ça c'est le sens du mot Shemot. Comment les noms sont-ils, comment les noms des enfants d'Israël sont-ils, font-ils allusion à cette délivrance? Alors dans la globalité des noms, d'Israël, Israël, c'est ainsi que c'est indiqué au début, vers les schémas de Béné Israël, il n'est pas dit Béné Yaakov. Béné Israël, ce qui souligne ou qui fait allusion à la nation d'Israël, et non pas aux individus qui composent cette nation, pas aux individualités. Alors que le mot Israël est l'acronyme, par définition, il est l'acronyme de Yesh Shishim Ribo Otiot la Torah. Il y a 600 000 lettres à la Torah. La Torah contient 600 000 lettres. La Torah, pas le Sefer Torah. Alors, à ce propos, les commentateurs au cours des siècles se sont interrogés, voilà qu'il n'y a que 304 805 lettres dans la Torah, on est loin des 600 000. Alors le Rama Mipano explique cela et dit, il lui semble qu'il ne s'agit pas de la Torah, du Sefer Torah, tel qu'il nous est parvenu, puisqu'il manque des lettres. Il s'agit des lettres qui étaient gravées dans les premières tables de la loi. Alors il y avait il ramène un midrash, un Yerushalmi, qui indique que entre les 10 commandements, entre chacun des commandements, il y avait inscrit toute la Torah orale était inscrite. Donc la globalité des lettres qui étaient gravées dans les premières tables était au nombre de 600 000. Quand les Bnei Israël faute et que Moshe brise les tables, alors les lettres s'envolent. Et Moshe récupérera une partie de ces lettres pour écrire le Sefer Torah. Donc la globalité d'Israël, des individus qui reçoivent la Torah, qui sont au nombre de 600 000, correspond exactement au concept de délivrance, puisque la délivrance en elle-même n'a pas d'intérêt en soi, n'est qu'une étape dans le processus dans cette ascension qui va amener les enfants d'Israël à recevoir la Torah. Donc, et la Torah, donc eux, ils sont au nombre de 600 000, et c'est ce Israël-là qui reçoit la Torah, les tables, les premières tables. Et ce sont ces tables-là qui qualifient le Ham Israël. Donc comment on retrouve cette idée de 600 000 dans les noms des tribus? Alors on dit le Midrash, il y a un Midrash qui dit que quand on prend les premières lettres des tribus, Réhouven, Shimon, Yehuda, Issachar, Zevulun, Binyamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher et Yosef, les premières lettres. Donc Réhouven, c'est 200. Alors il y a 200 000, ça fait référence à 200 000. Après Shimon, c'est 300 000. Lévi n'est pas compté parce que lui-même n'héritera pas. Il n'est pas compté dans le dénombrement du peuple. Comme on le voit, il est dénombré indépendamment, séparément, dans Sefer Bamidbar. Yehuda, 10 000. Issachar, encore 10 000. Zevulun, 7 000. Binyamin, 2 000. Dan, 4 000. Naphtali, c'est 50 000. Gad, 3 000. Asher, 1 000. Et Yosef, 10 000. Ce qui fait exactement 597 000. Il manque 3 000. Alors, ils ne sont pas comptés ici les 3 000 individus qui périront lors de la faute du Hegel. La Torah dit qu'il y a eu 3 000 personnes qui se sont prosternées, qui ont participé. Ouais, comme si, qu'ils ne sont pas comptés comme pour nous dire que leur sortie aurait été une erreur. Donc, en tout cas, il fait allusion ici de manière claire que les premières lettres, les noms des tribus d'Israël fait référence à cette mitzvah, à ce concept des 600 000. Et ce sont les 600 000 qui sortiront d'Égypte. Et c'est là l'idée fondamentale qui est contenue dans le mot Shemot. Le mot Shemot, donc, et les noms contiennent la délivrance. Les Shemot des enfants d'Israël contiennent les énergies même, ce sont les énergies qui leur permettront plus tard d'être libérés quand le temps sera venu. Et ça, cette idée-là, c'est toute la première partie, c'est là première partie, l'essentiel du livre Shemot, c'est donc cette première partie-là. Donc le livre des Shemot est composé de 11 parashiot. Il y a 6 parashiot qui traitent de la servitude, de la délivrance et de Kabbalat HaTorah. 6 parashiot. Et après viennent 5 parashiot qui traitent du Mishkan, de la construction du Mishkan, qui a priori semblerait cette partie, le Mishkan, semble qu'il n'est pas à sa place. Il aurait été peut-être préférable de le placer dans le Sefer Vaikra. Alors, la Torah a placé les parashiot du Mishkan immédiatement après la délivrance, la Kabbalat HaTorah, qui est l'apogée de la délivrance. Parce qu'en fait, le Mishkan, il est le retour, comme dit le Ramban, c'est la présence, le Mishkan, ça traduit la présence de Dieu. Le Ham Israël retrouve la Ma'ala des Avot. Les Avot, ils sont qualifiés de Merkava. Ils sont Hem à Merkava. Ils sont les porteurs de la présence divine dans ce monde. Et le Ham Israël, quand il parvient à son apogée, il construit le Mishkan, donc la structure du peuple est telle qu'on retrouve cette dimension-là de présence divine. Et c'est là l'essentiel de la raison pour laquelle le Mishkan est au centre, et le Mishkan, le temple, le sanctuaire, est au centre du peuple, du campement. C'est l'institution qui soude le système. Tout le système des tribus les tribus sont en cohésion, sont solidaires, sont liées par le fait de la présence divine qui se manifeste dans le Mishkan. C'est ça le concept même des Shemot. C'est ça le sens même de la délivrance. La délivrance n'est pas uniquement une délivrance physique de l'oppresseur, mais ce n'est qu'une étape parce qu'il faut donner à ce peuple une réalité, c'est-à-dire une cohésion intellectuelle, spirituelle. Et ça se manifeste par la Torah, Kabbalat HaTorah, et construction du Mishkan. Le Mishkan étant cette institution qui crée la cohésion dans le peuple. Sans quoi, il n'y a pas de peuple. Donc, les tribus, les individus vont se disperser, se disloquer. Donc, c'est le Mishkan, la présence divine, c'est ça qui manifeste la cohésion d'Israël et qui participe à la notion de cohésion du peuple. Donc, le Mishkan, dans la dimension, et le peuple d'Israël s'appelle Béné, alors il est les enfants de Jacob, après ils sont appelés Béné Israël, et après ils seront appelés Yeshurun. Il y a une autre dimension d'Israël qui s'appelle Yeshurun. Yeshurun, alors Israël, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie une dimension roche, l'Iroche, c'est-à-dire qu'il y a une dimension intellectuelle, spirituelle, élevée, qui fait référence à la tête. Il fait référence à la louange continuellement élevée vers Hachem. Shir, El, c'est le mot Israël est décliné en Shir, en louange vers l'Éternel, vers le Dieu Tout-Puissant. Et fait référence aussi à la droiture, Israël, Yachar. Mais Israël a aussi un autre nom, il s'appelle Yeshurun, il s'appelle celui qui est droit. Et là, c'est l'apogée de la démarche, de la construction d'Israël, c'est quand Israël est appelé Yeshurun. Yeshurun, c'est la droiture, c'est-à-dire que cette qualité, cette vertu dont ont été qualifiés, dont sont qualifiés les Avot HaKedoshim, qui poursuivent leur ascension continuellement avec persévérance dans un chemin de droit, le chemin est clair. Le chemin droit signifie qu'on ne s'écarte pas, on voit clair Et le chemin est illuminé, on sait où on va, on sait qu'on va vers le sommet. Et c'est lorsque le Mishkan est construit et que la structure des camps est en cohésion autour de ce Mishkan, par la présence divine, l'essentiel étant la présence divine, que Israël atteint alors le niveau des Avot qui sont appelés Yesharim, et eux, ils seront appelés Yeshurun. Le peuple Yeshurun. Donc, une cohésion parfaite. Donc, c'est la qualité de la nation. Donc, c'est à cela que doit parvenir le peuple dans sa délivrance. C'est à cela qu'il doit aspirer. C'est ça son ambition. Son ambition est de former un peuple en toute cohésion, en harmonie parfaite, en équilibre, en équilibre nuancé, parfait, que chacun, que nul ne se sent lésé par la présence de l'autre, de telle sorte que la Shekhina puisse résider. Et c'est là alors que la destinée d'Israël, elle est entre les mains de Dieu directement. C'est la conduite miraculeuse, extraordinaire, au-delà de surnaturel, au-delà du naturel, qui conduit l'âme Israël. C'est pour ça qu'ils auront, ils vont avoir toutes sortes de miracles au quotidien, les nuées, le puits, la manne qui tombe, etc. À chaque occasion, les miracles, ils sont époustouflants, de manière surnaturelle, au-delà de tout ce qui est imaginable. Pourquoi? Parce qu'Israël est alors le concept même de la droiture. C'est ça l'idée qui est mentionnée dans ce début de verset, le début du livre de Shemot. C'est pour ça que le premier terme, il est précédé du préfixe Véhélé. Véhélé, le vav, relie. C'est relié à ce qui précède. Qu'est-ce qui précède le Sefer Hayashar? Et ici, et voici les noms des enfants d'Israël qui viennent en Égypte. Donc c'est le début, on va nous placer, raconter comment l'exil va, que l'oppression va commencer. Mais la finalité, c'est que Israël soit appelé Yashar, Yeshurun, parce qu'il va parvenir au sommet les plus sublimes de l'excellence dans le service divin. Et c'est ça la Géoula. C'est à cela que fait référence le livre de la Géoula, de la délivrance. La délivrance n'est pas, comme nous l'avons dit, une délivrance uniquement, une délivrance physique de l'oppression physique et matérielle. Elle doit contenir une dimension spirituelle, un projet. Que voulons-nous faire de notre liberté? Est-ce que la liberté, c'est s'adonner à ce que l'on veut? Ou avoir une idéologie ou une idée de la présence, faire de notre existence quelque chose qui correspond à la volonté de Dieu. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.